One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Catherine Dufour, la science-fiction rebelle. Un podcast background par Grande Contrôle. Épisode 3, guide pour une petite fille qui veut écrire de la SF.
Pas simple d'être une femme dans la science-fiction française des années 2000. Alors que Catherine Dufour a été au début bien accueillie, devenant même une caution féministe, elle nous raconte ses anecdotes de salons littéraires où le machisme et la misogynie ne sont jamais bien loin. Heureusement, notre romancière parisienne continue sa carrière sans se préoccuper des mauvaises expériences. La romance, la fantaisie, le polar, la SF, tous les genres sont possibles quand on a une bonne histoire. Elle espère justement changer les mentalités avec un livre féministe pour donner envie aux petites filles de rêver d'autre chose que d'être princesse.
Du temps où j'allais beaucoup au festival des Utopiales, on croisait toutes sortes de gens dont on a toujours rêvé. On les croisait au petit déjeuner, c'était assez magique. Je me souviens de voir passer Silverberg, bonjour monsieur. Je me souviens d'avoir dédicacé un jour, j'arrive en dédicace, et à ma droite il y avait Silverberg, et à ma gauche il y avait Brian Adlis. Et j'ai passé une heure raide sur ma chaise, à me dire surtout ne pas péter. Et après, je suis allée les voir et j'ai pas su leur sortir autre chose que I like a lot what you do. Enfin, c'était juste pitoyable. Et une autre fois, il y avait Terry Pratchett au bar des Utopiales. Et ben, j'ai tourné autour comme une scie circulaire, j'ai jamais osé aller le voir. Mais oui, il y a ce côté, tout d'un coup, on rencontre ces héros, on s'aperçoit que c'est des vrais gens et ça, c'est effectivement assez émouvant. Les Utopiales, c'est un festival de science-fiction, c'est le festival de science-fiction qui a lieu tous les ans fin octobre à Nantes, et je vous invite à y aller. Il y a de la science, il y a de la science-fiction, et c'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, il y a énormément de gens qui y viennent. Il y a un seul bémol, c'est que je suis une femme, et que dans ce milieu de la science-fiction, il n'y a pas forcément énormément de femmes. Donc on se comptait sur les doigts d'une main, maintenant ça va beaucoup mieux, il y en a beaucoup plus. Mais dans les années 2000, on attendait la relève, et dans les années 2010, il n'y a pas eu tellement la relève. Elle commence à arriver, mais il y a eu un moment où, je me souviens, avec Sylvie Denis, Sylvie Lenné, Joëlle Vintrebert, et les quelques femmes qui étaient présentes dans le milieu, on se disait il faudrait que la relève arrive parce qu'on en a marre d'être sollicité en permanence pour faire le quota féminin. Alors déjà, faire quota féminin, déjà c'est une bonne chose. Et donc dans ce festival, à une époque, il y avait une table ronde sur les femmes et la science-fiction, et le panel invité sur scène, il n'y avait pas une femme. Donc on s'était mis au premier rang avec Sylvie Lenné et on leur lançait des cacahuètes pour protester. Alors maintenant, après, on nous a invités beaucoup plus au panel femmes et science-fiction, et maintenant les panels femmes et science-fiction sont un petit peu passés de mode, ce qui montre qu'il y a une véritable évolution des mentalités. Alors il y a toujours un noyau de vieux passéistes, d'ailleurs ils ne sont pas forcément vieux, ils sont vieux dans leur tête, qui effectivement sont pas aimables envers les femmes par méthode et par conviction. Est-ce qu'ils sont tellement aimables envers qui que ce soit d'autre ? Je ne suis pas sûre, mais ça c'est pas grave, il suffit de les contourner et de s'adresser aux autres gens qui sont parfaitement normaux et chaleureux. Après oui, il y a toujours cette misogynie qu'on retrouve dans toutes les couches de la société et que j'espère les différentes vagues du féminisme et dernièrement MeToo contribuent à éroder, mais ni plus ni moins que dans d'autres milieux. Est-ce que j'ai des souvenirs d'actes misogynes au sein de la communauté de science-fiction ? Il a dû m'arriver de redresser quelquefois quelques réflexions de lecteurs qui viennent faire dédicacer un ouvrage et qui vous disent « oui, moi je lis pas les femmes, moi si je vous donne un livre à dédicacer, c'est pour mon épouse ». Voilà, donc là, effectivement, on lui remonte un petit peu les bretelles. Pas conscience d'avoir vécu beaucoup, alors beaucoup d'actes de ce genre où je les ai gommés de ma mémoire. On m'a mis une main aux fesses, ouais. Ça, c'est vrai. Mais c'était plus dans une ambiance soirée, boîte de nuit. Donc, je relis plus ça à l'ambiance de boîte de nuit qu'à l'ambiance de la science-fiction. J'ai été témoin. Alors, peut-être qu'on se souvient plus quand on constate ça vis-à-vis de quelqu'un d'autre que quand on constate ça pour soi-même. Mais effectivement, moi, j'ai vu des manifestations de racisme contre les Noirs au sein du milieu. Et là, moi, je suis intervenue pour dire que j'étais pas d'accord. Mais je tiens pas à le relater, parce que peut-être la personne qui en a été victime n'a pas du tout envie qu'on en parle. Comment est-ce qu'on explique la faible présence des femmes en science-fiction ? Alors déjà, il y en a un petit peu plus maintenant qu'il y en avait il y a 10 ans. Ça, je suis bien contente. Et ensuite, mesdames, venez. Moi, j'avais fait paraître un article dans Le Monde, il y a peut-être 3 ans. Où je disais, mais envoyez-moi vos nouvelles de science-fiction, moi j'essaierai de vous trouver un éditeur, enfin ça doit pouvoir se faire. Et ben j'ai pas eu beaucoup de répondants, et j'en suis bien désolée. Pourquoi est-ce que les femmes renaquent devant la science-fiction ? Peut-être parce qu'il y a le mot science et qu'on sait que les femmes choisissent peu les sciences comme orientation. Est-ce parce qu'on leur a répété depuis toute petite qu'elles ne sauraient pas faire ? Est-ce parce que tout simplement elles sont plus intéressées par des milieux où il y a plus de rapport à l'humain, ce qui est tout à fait louable. Est-ce que parce que les hommes les accueillent à la fourche, alors du coup elles fichent le camp dans des endroits plus accueillants. Je ne sais pas, c'est une excellente question, mais en tout cas, n'hésitez pas, mesdames, mesdemoiselles, à écrire de la science-fiction, vous serez bien accueillies. Oui, la science-fiction peut participer à la réflexion féministe. Elle le fait depuis longtemps, hein, puisqu'il y a eu avec la seconde vague du féminisme, donc début des années 60, on a vu l'émergence de Ursula Le Guin, de Joanna Russ et d'autres autrices comme ça, qui sont rentrées droit dans le chou du machisme. Et La main gauche de la nuit, ça doit être 1969 ou 71. Donc je rappelle que c'est un livre d'Ursula Le Guin qui met en scène un peuple dégenré. Ce sont des gens qui n'ont pas de genre, sauf une fois par mois, ils ont une pulsion d'hormones, ils se reproduisent, puis après, pouf, ils sont à nouveau dégenrés. Et donc, c'est un peu l'effet lettre-personne, c'est-à-dire qu'en nous faisant voir vivre ces gens-là, elles nous mettent sous le nez à quel point nous, on est terriblement genrés. Et donc, cette science-fiction féministe a toujours existé et elle a du succès. Enfin, Margaret Atwood, La Servante écarlate, en 1985, c'est quand même un phare dans la tempête. Et il y a une science-fiction féminine et féministe depuis les années 60.
Maintenant, je suis réveillée. Avant, j'étais endormie. C'est comme ça que c'est arrivé. Quand ils ont mitraillé le Congrès, on s'est pas réveillé. Quand ils ont rejeté la faute sur des terroristes et suspendu la Constitution, on s'est toujours pas réveillé. Ils disaient que ce serait temporaire. Rien ne change instantanément. Dans une baignoire qui se réchauffe petit à petit, on meurt bouilli avant de s'en rendre compte.
Quel genre je préfère écrire ? Je n'en sais rien. En fait, j'ai une idée et après, le genre s'impose de lui-même. C'est un petit peu comme quand vous voulez sculpter quelque chose. Vous avez une pièce de bois et c'est la pièce de bois qui va vous dire que moi, je veux être violon ou tabouret. Et là, c'est pareil. La dernière idée en date que j'ai eue, c'est... Alors là, oui, non, c'est clairement une idée qui va évoluer dans le polar, mais celle d'avant, c'était vraiment de la science-fiction. Donc là, c'est l'idée qui s'impose. En général, c'est le livre qui me tape sur l'épaule en me disant « Écoute, il est indispensable que tu m'écrives ». Du coup, là, je choisis le genre en fonction de cette idée. Par exemple, au moment du succès de Twilight, puis de Fifty Shades of Grey, il y a ma correspondante au monde diplomatique qui m'a dit « Écoute, faudrait quand même faire un article sur Twilight et Fifty Shades of Grey, c'est des grands succès. Et Fifty Shades of Grey, c'est un grand succès sexuel auprès des femmes. » Bon, voilà. Donc j'étais obligée de lire Twilight et Fifty Shades of Grey, de les relire. Oui, c'est moi. Et j'en ai tiré un article qui s'appelle « Pornographiquement correct » qui parle effectivement de cette... accès à la sexualité que les femmes s'autorisent. Ouais, les femmes ont dit clairement, moi Fifty Shades of Grey, je lis de la main gauche, ça me fait beaucoup de bien, et c'était quand même assez novateur comme prise de parole féminine. Et donc après les avoir lus, il y a un livre qui m'a tapé sur l'épaule en me disant voilà, ce sont deux livres qui décrivent une jeune femme pauvre qui tombe amoureuse d'un jeune homme riche et réciproquement, et leur histoire se passe bien. Voilà, et à la fin ils sont toujours amoureux et ça se passe bien. Il y a un petit détail, c'est qu'ils ne sont pas de la même classe sociale. Et ça, l'histoire de la classe sociale et des difficultés pour un riche d'être avec une pauvre, ça n'est absolument pas abordé comme si ça pouvait se passer facilement, alors que tout le monde sait très bien que les riches s'enferment même dans un ghetto où on n'entre pas comme ça. Donc j'ai décidé d'écrire un Fifty Shades of Grey, mais qui se passerait avec une héroïne consciente des luttes sociales. Et ça a donné Entends la nuit, qui est un Twilight ou un Fifty Shades of Grey avec une conscience sociale. Sachant que déjà Fifty Shades of Grey, c'est un Twilight, mais avec une conscience sexuelle. Donc, mes livres préférés de science-fiction, enfin, c'est qui m'ont le plus marqué, ben, on va faire un petit silver line féministe. Donc, je me suis rendu compte, sur le tard, que mine de rien, depuis toute petite, j'avais tendance, sans le savoir, à privilégier les autrices plutôt que les auteurs. Je me suis aperçue que j'avais lu Libraquette, que j'avais vraiment flashé sur Catherine Moore à 16 ans, qu'après je me suis vautrée dans Ursula Le Guin, parce que je trouve ça extrêmement intelligent, et que mine de rien, pendant ce temps-là, en littérature générale, je lisais très très volontiers, j'ai lu tout Colette, même ses notes de blanchisserie, et après j'ai un peu tout lu Yourcenar, même ses listes de courses. De fil en aiguille, finalement, aussi bien en science-fiction qu'en littérature générale, j'ai une lecture au féminin assez importante par rapport au pourcentage que les femmes représentent dans la production littéraire. Et ça continue. Là, moi, dernièrement, j'ai lu Audrey Plenet, hein, que je suis depuis ses débuts. Là, j'ai lu le très bon Rossignol, j'ai lu l'essai de Katie Stewart sur réparer la science-fiction. Alors là, maintenant, ce sont des lectures beaucoup plus volontaires. Je vais vers les femmes volontairement, mais je m'aperçois que j'ai toujours eu comme ça une attirance pour ce type de littérature. Probablement je m'y retrouvais plus que dans les littératures, hein, avec plus de testostérone, comme dans je sais pas si vous avez relu dernièrement iRobot là de Asimov, les robots, avec la robot psychologue Calvin Klein, je crois. Suzanne Klein, je ne sais plus, Suzanne Calvin. Voilà, ça doit être Suzanne Calvin. Je suis en train de mélanger ça avec la marque de slip pour homme. C'est une littérature d'une misogynie féroce, parce que cette femme, du fait qu'elle a un métier un petit peu technique, est représentée comme une virago ridicule et très laide, et quand elle se met du rouge à lèvres, l'auteur est morte de rire. Comment une femme qui exerce un métier peut-elle imaginer être féminine? Et donc je pense que très tôt, ce côté-là de la littérature m'a agacée, que je suis allée vers des littératures qui me correspondaient plus, donc écrites par des femmes.
Alice Zénitaire.
Le titre du livre, Toute une moitié du monde, c'est un morceau de phrase que j'ai emprunté au romancier et au philosophe Tristan Garcia, qui raconte dans un entretien que les livres avec lesquels il a grandi, en fait, occultent Toute une moitié du monde, qui est celle des femmes. C'est d'abord parce que les auteurs sont en immense partie des auteurs, et c'est aussi parce que les personnages féminins sont en immense partie des objets de désir, lointains, fuyants, sans intériorité. Et ce titre-là, c'est un appel aussi à ce que la fiction elle aille batifoler et s'égayer dans ces territoires qui ne sont pas encore explorés, alors qu'en fait, ils sont immenses et puis ils nous constituent, quoi.
Alors, mon fils aîné lit mes romans et on pense du bien, même s'il ne m'en dit pas forcément grand-chose. Mon fils cadet a dit « Ah non, c'est très désagréable, j'ai l'impression de t'entendre, donc non, il ne lit pas. » Je préfère qu'il ne les lise pas, parce que, effectivement, il y a des... il y a des côtés gênants, d'autant que j'aborde des thèmes comme la maternité, et puis ils en font bien ce qu'ils veulent, mais effectivement on se révèle beaucoup à travers ces écrits. Finalement on est peut-être plus gêné qu'autre chose que l'entourage les lise et les pratique, ça c'est certain. Il y a certains auteurs ou autrices qui au contraire attendent beaucoup de leur entourage, qui les lisent, qui les corrigent, qui donnent leur avis, etc. Moi je fais plutôt partie de la personne un peu schizophrène qui sépare et qui compartimente sa vie. Il y a notamment un livre dont j'attends des retombées sur le long terme, qui est le guide des métiers pour les petites filles qui veulent pas finir princesse, où je présente un certain nombre de métiers que les femmes peuvent exercer alors qu'elles n'y pensent pas, hein, agentes secrètes, chercheuses d'or, chercheuses, chirurgiennes, etc. Et j'espère qu'un jour, une jeune femme viendra me voir en disant « j'ai lu ça quand j'avais 12 ans et bah, c'est grâce à vous que je suis actuellement, je sais pas, surfeuse, voileuse ou mathématicienne ». C'est un livre qui était très intéressant à écrire puisque j'ai, pour chacun de ces métiers, j'ai fait un peu l'historique, j'ai parlé d'une pionnière de ce métier et ensuite je suis allée interviewer quelqu'un qui exerçait ce métier à l'heure actuelle. Hein. Pour cosmonaute, j'ai été en contact avec Claudie Aigneret, pour voileuse avec Hélène MacArthur, etc. Donc c'était très intéressant déjà de parler avec ces femmes-là. Elles mettent les points sur les i en disant que globalement, si on veut, on peut s'en donner les moyens. Bon, c'est pas... Quelquefois, c'est quand même pas bien facile. Hein. Claudie Aigneret, elle est bac plus 19. C'est pas tout le monde qui a cette aisance-là à l'école. Faut pas rêver. Mais bon. Et j'espère, oui, que une certaine partie de mes écrits vont ricocher dans un certain nombre de cerveaux et apporter une pierre à un édifice plus humaniste.
Catherine Dufour, la science-fiction rebelle. Un podcast background par Grande Contrôle, en collaboration avec Sonic. Écrit et présenté par Lloyd Chéry, rédaction en chef Christophe Payette, réalisation Lucie Lossel, production Sonic, le studio.